Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter d'un nouveau format sur ce podcast. Des experts vont nous résumer des articles en moins de 5 minutes. Ils ont tous choisi un article qui les a marqués, qui a fait évoluer leur pratique. Le but est vraiment que vous repartiez avec de nouvelles connaissances. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous.
Bonjour à tous et merci à Julien pour l'invitation. Je m'appelle Nicolas Fouché, je suis kinésithérapeute du sport sur Nantes, où j'interviens dans 3 domaines différents. J'ai une activité en cabinet au sein du CR2S Nantes, qui est un cabinet pluridisciplinaire autour des pathologies musculo-squelettiques et sportives. J'ai également une activité de terrain, d'accompagnement d'équipes et de sélection nationale, notamment dans le domaine du handball. Et une dernière activité d'enseignement et de formation autour des pathologies sportives, avec une appétence toute particulière pour l'épaule du sportif, en duo avec ma collègue Clémence Bien-Aimée. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article assez connu intitulé « Preventing Overuse Shoulder Injuries Among Throwing Athletes, a Cluster Randomized Control Trial in 660 Elite Handball Players », qu'on pourrait traduire par « Prévenir la blessure d'épaule par sursollicitation parmi les athlètes lanceurs, une étude de cohorte contrôlée randomisée auprès de 660 joueurs et joueuses élites de handball ». Il s'agit d'un papier de 2016 publié dans le BJSM de l'équipe norvégienne d'Anderson, Barr, Clarsen et Mikkelbust, qui sont tous les 4 des auteurs et autrices majeurs dans le domaine des pathologies de l'épaule et des stratégies de prévention du sportif. J'ai choisi de parler de cette étude car elle est très souvent citée et reprise de par sa force statistique car l'on suit un nombre important de joueurs et de joueuses élites lors d'une saison sportive de handball. À l'heure actuelle, on peut penser qu'il n'y a qu'en Norvège que l'on s'intéresse à la prévention de l'épaule du handballeur à une si grande échelle. Mais je vous parle également de cette étude pour discuter de l'intérêt mais aussi des limites qui se posent lorsque l'on réfléchit au concept même de prévention et notamment pour les acteurs de terrain à qui on demande de mettre en place ces stratégies, ces fameuses stratégies de prévention. Nous en discuterons à la fin du podcast. Concernant la méthodologie de cette étude, des joueurs et des joueuses élites de 45 équipes de handball qui évoluent en première ou seconde division sont sélectionnés et répartis en 2 groupes de manière randomisée. Un groupe contrôle de 329 sujets et un groupe intervention-prévention de 331 sujets. Les auteurs vont recueillir l'évolution des problèmes d'épaule durant une saison sportive grâce au questionnaire OSTRC, qui est un questionnaire spécifique aux pathologies d'overuse et qui a été validé par cette même équipe norvégienne. Grâce au questionnaire, on va différencier les problèmes et les problèmes substantiels d'épaule. Ces derniers sont des problèmes plus graves étant définis par une réduction modérée à sévère de la participation. À noter que l'on garde les joueurs déclarant des antécédents d'épaule ou une douleur d'épaule, ce qui semble logique lorsque l'on s'intéresse à la problématique d'overuse car cela représente une partie importante d'un collectif de handball. Durant ces 7 mois, le groupe contrôle poursuit son entraînement normalement, alors que le groupe intervention va rajouter un programme de prévention épaule de 3 fois 10 minutes par semaine qu'il réalise durant l'échauffement. Il est important de noter qu'il s'agit d'un programme en plus de l'échauffement par rapport au groupe contrôle. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est évidemment le contenu de ce programme qui va se baser sur les différents facteurs de risque qui ont été décrits par cette même équipe de chercheurs, à savoir la perte de range of motion, donc de mobilité gléno-humérale en rotation, le déficit de force des rotateurs d'épaule et la fameuse dyskinésie scapulaire. On retrouve alors dans ce programme, qui est accessible sur Internet d'ailleurs, des exercices concernant l'amplitude rotatoire gléno-humérale, notamment en rotation interne. Donc le travail sur ce GERD, la force des rotateurs externes et des muscles dits scapulaires, et également un travail sur la mobilité thoracique et la chaîne cinétique qui a été rajoutée par les auteurs. Pour rappel, les consignes auprès des joueurs volontaires sont de réaliser le protocole 3 fois 10 minutes dans la semaine lors de l'échauffement des séances handball, supervisé par les coachs et une fois par mois par les auteurs qui se déplacent dans les clubs. Concernant les résultats au bout de 7 mois et de la saison sportive, on va repérer une différence significative de la prévalence des problèmes d'épaule, qui est de 23% dans le groupe contrôle et 17% en moyenne dans le groupe intervention. Il va également y avoir une différence significative de la prévalence des problèmes substantiels d'épaule, qui est dans le groupe contrôle de 8% et dans le groupe intervention de 5%. Je vous laisserai aller plus loin pour creuser l'étude afin d'avoir toutes les données statistiques un peu plus précises. En conclusion de ces résultats, les auteurs vont utiliser une méthode statistique permettant de dire que l'inclusion du programme de prévention permet de diminuer de 28% la prévalence des problèmes d'épaule et de 22% la prévalence des problèmes substantiels d'épaule. Si l'on souhaite retranscrire ça à l'échelle d'un groupe de handball, au cours d'une saison, on va toujours avoir 4 joueurs qui se sentent douloureux au niveau de l'épaule, donc pas forcément les mêmes au cours de la saison, mais toujours 4 joueurs embêtés par l'épaule. Et si l'on inclut ce programme, on peut en conclure qu'on n'aura plus que 3 joueurs qui se trouvent douloureux à chaque moment de la saison. Donc les forces de cette étude, eh bien, elles sont forcément multiples puisqu'il s'agit d'un essai randomisé de grande envergure avec un nombre de sujets importants, 660 sujets d'une population en plus spécifique puisque élite handball, donc pas forcément facile à rassembler. Des moyens de suivi également importants puisqu'on va utiliser le questionnaire OSTRC qui semble plus logique dans le fait de repérer des blessures d'overuse. Parfois, c'est une étape un peu loupée où on s'intéresse qu'à l'incidence de la blessure, mais au niveau de la pathologie d'épaule, ça n'aurait pas été cohérent. Et puis, on va suivre ces 660 sujets au cours d'une saison sportive quasi complète. Donc, il y a en plus une réflexion vraiment collée au terrain de suivi d'une équipe sportive. Donc ça, c'est en se basant sur un groupe d'une vingtaine de handballeurs à peu près. À noter que les auteurs ne remarquent pas de différence significative entre les handballeurs et handballeuses. Pas de constatation non plus de différence entre les joueurs et joueuses ayant des antécédents ou non. La remarque principale, en fait, elle vient au niveau de la compliance, donc la moyenne de pratique, puisque pour rappel, on avait demandé aux gens de réaliser le programme d'intervention sur 3 fois 10 minutes par semaine et la moyenne de réalisation va être en fait de 1,6 fois par semaine. Donc ça, c'est la moyenne sur les 660 participants. Ils ne vont le réaliser que 1,6 fois par semaine, alors qu'on avait conseillé de le faire 3 fois. Sachant que ceux qui vont réellement réaliser le programme 3 fois par semaine vont avoir une diminution plus significative de la prévalence, montant jusqu'à 69%. La conclusion étant que oui, une stratégie d'intervention générale, globale, non individualisée, semble pouvoir fonctionner chez des athlètes lanceurs avec une diminution de la prévalence des problèmes d'épaule et tout ça avec seulement, entre guillemets, 3 fois 10 minutes d'exercice d'épaule autour d'exercices assez simples avec assez peu de matériel. Je vous recommande d'ailleurs d'aller retrouver le programme sur Internet, c'est facilement accessible. À l'inverse, ces stratégies de prévention un peu globales peuvent aussi être critiquées. Et c'est pour cette raison que moi, j'ai choisi cet article-là. C'est qu'il y a aussi des choses qui posent question quand on doit mettre en place des stratégies de prévention sur le terrain. Et on va passer là à la critique, on va dire, de l'étude, sans forcément dire que ce sont des critiques que négatives, mais des points qui peuvent poser problème quand on est kinésithérapeute. Alors peut-être de manière brève, mais on va forcément devoir parler des facteurs de risque qui ont été choisis, puisqu'en effet, certains de ces facteurs de risque choisis, comme le GERD et surtout la dyskinésie scapulaire, ont été revus au fil des années et on a du mal à trouver un lien direct de cause à effet avec la blessure d'épaule. Donc, il faut toujours se méfier avec cette notion de facteur de risque, puisqu'en fait, les interactions entre ces différents facteurs restent complexes, notamment au niveau de la blessure overuse. Donc, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça et pas forcément traiter un facteur par un exercice à chaque fois, ce qui semblerait un peu simpliste. D'où l'apparition de certains modèles d'explication de la blessure, comme celui proposé par Bitancourt en 2016, qui rajoute un peu de complexité dans l'apparition de la blessure, mais semble plus correct. Un second point qu'on peut soulever dans cette étude, et ceux qui ont un peu d'appétence en prépa physique se seront sûrement déjà interrogés, c'est que on fait le postulat qu'il y a un manque de force au niveau de la coiffe et des muscles scapulaires, comme souvent au niveau de l'épaule, mais sans se donner vraiment les moyens de développer cette force. Donc, en effet, le fait de placer les exercices durant l'échauffement avec peu d'intensité, ça laisse penser qu'on n'est pas optimal pour développer vraiment des capacités musculaires. Ça aurait été très difficile à faire, mais on aurait aimé avoir les mesures de force au cours de ces 7 mois pour savoir si les personnes ont vraiment progressé en force, puisque a priori, c'était un objectif et un facteur de risque. Si on se rend compte qu'il y a peu d'évolution de la force, et c'est souvent le cas dans pas mal d'études au niveau de l'épaule, eh bien, on peut peut-être se dire que la diminution de la prévalence des blessures est due au seul bienfait d'un échauffement plus spécifique de l'épaule. Et là, on dépasse un peu le cadre de cette étude, mais souvent, on reste sur notre faim dans les protocoles de prévention, avec une recherche assez avancée, on va dire, sur la forme des exercices à donner, donc quel type d'exo, mais parfois assez peu de réflexion sur la planification, la programmation, la périodisation, afin d'avoir un vrai objectif standardisé d'augmentation, en l'occurrence aujourd'hui, des qualités de force avec des programmes et des exos plus individualisés, avec plus d'intensité. Et ça nous amène là au dernier point de la discussion, qui est celui que je souhaitais le plus développer. Donc en fait, je parle depuis tout à l'heure, surtout pour en arriver là. C'est autour du concept même de la prévention. Parce que si on revient sur la compliance, on remarque que les joueurs ont réalisé le protocole en moyenne 1,6 fois par semaine, alors qu'ils s'étaient engagés à le réaliser 3 fois par semaine. Donc si des équipes, des coachs, des joueurs qui sont volontaires ne réalisent que 50% de ce qui a été convenu, on peut aisément penser que le joueur lambda, il réalisera jamais les 3 fois par semaine, voire en fait, il va laisser tomber très très vite ses stratégies de prévention à l'échauffement des exos et ainsi de suite. Et là, on touche à un problème majeur de la prévention, de la prophylaxie, c'est que les joueurs trouvent ça ennuyeux, voire inutile, pour rester poli, et ils n'ont pas forcément tort quand on voit parfois le peu d'intensité des programmes et qu'on le compare à la complexité de la survenue de la blessure. C'est une des opinions défendues par Roald Barthes dans son papier assez connu de 2016 que je vous invite, si vous avez le temps, à lire, parce que vraiment au niveau de la prévention, c'est très intéressant. C'est Why screening tests doesn't work to predict injury and probably never will. Pourquoi les tests de screening, notamment de début de saison, pour prévenir la blessure, ne marchent pas et ne marcheront sûrement jamais. Et à partir de ce constat de la complexité de la blessure, du manque de compliance, des stratégies de prévention qui ne sont pas forcément tout le temps efficaces, on a pas mal de spécialistes qui préconisent d'arrêter d'utiliser les termes prévention en communiquant à les sportifs, d'arrêter d'avoir des périodes spécifiques juste pour la prévention, mais plutôt de mettre en place, en fait, juste des programmes spécifiques de renforcement de l'épaule. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, spécifiques aux shooters, avec des objectifs communs de peut-être renforcement des muscles de la coiffe, des stabilisateurs scapulaires, peu importe ce qu'on choisit, mais vraiment un programme plutôt spécifique épaule qui relierait les objectifs de performance et de prophylaxie. Et on est donc dans un programme de développement des qualités athlétiques de l'épaule, spécifique au shooter, qui fait d'une pierre deux coups en participant au management du risque de blessure. Voilà, c'est fini pour moi sur ce podcast. Moi, c'est un sujet que j'adore. N'hésitez pas si vous avez des questions. Évidemment, c'est dur de résumer un article si riche, mais c'était surtout pour aborder la complexité de ce que peut être la prévention, notamment quand on essaie de la vivre sur le terrain au jour le jour et mettre en place des choses efficaces au fur et à mesure d'une saison.